De retour à Delirium environnemental, dernière et troisième partie, ou troisième et dernière partie d'émission. On a le plaisir, donc, dans cette partie entrevue, où est-ce qu'on va plutôt au fond des choses, on lâche un peu l'actualité, quoique le sujet d'aujourd'hui est vraiment d'actualité. D'ailleurs, un article fort intéressant et surtout inquiétant dans Le Devoir d'aujourd'hui, le 22 mars 2005, qui parlait de la question des semences au Canada. Le génie génétique, les produits issus du génie génétique, les OGM, ça vous inquiète quand on en parle pour ce qui concerne l'alimentation? Mais écoutez bien ce qui suit, parce que Marie-Hélène Bacon, qui est doctorante en sociologie à l'UQAM, travaille depuis sa maîtrise, donc depuis déjà un bon moment maintenant, puisqu'elle fait un doctorat, sur la question des biopharmaceutiques au Canada, plus particulièrement, et de la réglementation qui entoure ces produits, ces magnifiques produits pleins d'avenir. Donc, Marie-Hélène, ça va bien?
Oui, ça va bien.
On va se dire tu, parce que ça va faire trop drôle de se dire vous, donc excusez-nous, habituellement, on dirait vous, mais pas là. Donc, peut-être simplement commencer par nous décrire un peu. Parce que ce que j'ai dit en début d'émission, je parlais de moléculture, de pharmaculture, de moléculture, de biofarming ou d'agriculture moléculaire. Mm-hmm. C'est un peu flou peut-être. En termes de produits, pour que les gens puissent voir un peu de quoi on parle, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de biofarming?
OK. C'est sûr qu'il y a différents termes en français et en anglais, mais en français, lorsqu'on parle de pharmaculture ou de moléculture pharmaceutique, on se réfère explicitement à des plantes transgéniques qui ont été modifiées pour produire des molécules pharmaceutiques. Mais c'est certain que quand on parle de biofarming en anglais, on peut se référer aussi à la production d'enzymes, d'additifs agroalimentaires, de produits industriels et pas nécessairement de produits pharmaceutiques. Mais en français, comme je dis, quand on parle de pharmaculture, on se réfère spécifiquement à ce type de plantes transgéniques.
Donc, des plantes transgéniques qui sont porteuses d'une molécule, en parenthèse, pharmaceutique, donc qui ont été modifiées génétiquement. Donc, on parle de quoi? De blé, de maïs, de luzerne?
Les compagnies qui font ça, c'est des multinationales comme des toutes petites PME en biotech et en pharmacie qui font ça, vont utiliser du maïs, du canola, du tabac, du cartam, des tomates, de la luzerne. Donc, mais principalement, comme je disais, les essais en champ aux États-Unis, c'est deux tiers, c'est du maïs, c'est avec du maïs. Alors, par exemple, on va faire des exemples de produits, en fait, de choses qu'ils essaient. On va utiliser le tabac pour faire produire des hormones de croissance ou de l'hémoglobine. Ou un autre produit qui est du tricoxantin, qui est un composé extrêmement toxique qui provient des racines d'une plante chinoise qui est utilisée depuis longtemps en Chine pour provoquer les avortements. Puis, on va essayer de tenter de guérir le sida et le cancer avec ce type de produit-là. Autre exemple, on va introduire une glycoprotéine qui est le GP120, qui est retrouvée à la surface de deux souches de virus qui causent le sida, qu'on insère dans le maïs et le tabac. Alors, ils veulent l'expérimenter pour essayer de faire un vaccin contre le sida. Et peut-être un dernier exemple, en fait, qui est au Canada, il y a la compagnie Symbiosis, qui est un spin-off de l'Université de Calgary, qui produit commercialement du canola, qui produit un anticoagulant grâce à un gène de sangsue qui a été introduit dans le canola.
Donc ça, c'est pour ce qui est des produits. Donc, oui. On produit des hormones de croissance, des anticoagulants, on travaille sur des produits qui sont issus du virus du sida, si je comprends bien.
Oui, on est... Oui.
Des produits qui provoquent des avortements. Et ça, on inclut ces produits-là, en gros, là, c'est un peu comme on a une espèce de réflexion mécano, comme si c'était simple comme ça. On introduit donc ces produits-là dans les plantes et on fait des essais un peu partout.
Oui, un peu partout, en champ, en serre, et effectivement, c'est un peu partout, beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada. Et au Canada, c'est particulièrement dans les prairies, dans les provinces de l'Ouest, qu'on va retrouver les essais.
OK. On va s'arrêter pour quelques secondes tout de suite, juste pour que les gens prennent conscience de ce qu'on vient de dire. Je sais pas, moi, il me semble que je suis étourdie juste de penser qu'il y a comme ça des coagulants qui poussent en pleine nature. Des anticoagulants, c'était coagulant, déjà, ce serait peut-être un peu moins pire. On va parler des différents problèmes que ça soulève. Oui, bien sûr, il y a des problèmes moraux, éthiques et politiques, économiques, etc., mais on va peut-être se concentrer un peu sur les impacts environnementaux et sanitaires au niveau de la santé des populations que ça pourrait occasionner, ces beaux produits-là.
Bon, oui.
Thank you. De retour à Delirium environnemental, je vous rappelle qu'on parle toujours avec Marie-Hélène Bacon, qui est doctorante à l'UQAM et qui travaille sur le biofarming. Ça fait vraiment français, je trouve. Bref, sur la transgénèse à des fins pharmaceutiques, donc des OGM à visée pharmaceutique, pourrait-on dire.
Oui, des plantes.
Des plantes.
Oui, quand on parle de moléculture pharmaceutique ou de pharmaculture, c'est réellement des plantes.
Donc, c'est pas des choses qui se font en milieu clos, dans des laboratoires, où est-ce qu'on sait qu'ils pourront pas se sauver. On utilise, c'est des plantes, donc elles peuvent se reproduire avec un autre plant de maïs à côté ou avec un autre, pas super un plant, mais avec d'autres luzernes plus loin.
D'autres luzernes, oui, effectivement. Et c'est ça le principal. Bon, il y a plusieurs problèmes, là, notamment au niveau scientifique. L'instabilité transgénique des OGM pose un problème. Et c'est également ça qui est lié notamment à la pollution génétique.
Qu'est-ce qu'on entend par instabilité transgénique?
Instabilité transgénique, c'est en fait, c'est lié à plusieurs facteurs. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'y revenir, mais c'est une instabilité qui entraîne la perte ou la modification de la caractéristique introduite, l'apparition de nouvelles caractéristiques ou les modifications des caractéristiques naturelles de la plante. Ce qui fait qu'en fin de compte, les scientifiques sont incapables. Premièrement, ça prend énormément d'essais avant d'avoir un OGM fonctionnel qui fonctionne. Et on parle souvent d'artisanat moléculaire, c'est-à-dire que les scientifiques ne comprennent pas quels sont les processus impliqués et ne comprennent pas également les résultats de ce qui est fait. Donc, il y a vraiment une incompréhension qui est liée à ces expériences-là.
Bon, il y a quelque chose qui relève presque de la croyance. On ne sait pas exactement ce qu'on a fait, mais ça a l'air de marcher.
C'est ça. Ça marche dans certains cas. Dans les cas d'exception, ça fonctionne. Donc, on a des problèmes, oui, de pollution génétique. On a vu avec les cultures agroalimentaires génétiquement modifiées qu'on est pris avec des problèmes de pollution génétique extrêmement importants, notamment au Canada. Tous les stocks de semences seraient contaminés, notamment. Et on se retrouve donc avec des plantes comme le canola dont je parlais tout à l'heure, qui est une plante qui n'est pas nécessairement considérée comme une bonne plante pour faire des pharmacultures parce qu'elle est pollinisée par les insectes, elle se croise facilement, avec des espèces apparentées également. Et pourtant, malgré tout, on introduit comme ça des anticoagulants. Donc, au niveau des problèmes, on a également un transfert interespèce que les scientifiques commencent à mettre en évidence, qui se situe, bon, évidemment, via le pollen transgénique, mais également au niveau du sol, parce qu'on a réalisé qu'il y avait un transfert extrêmement important de bagages génétiques au niveau du sol. Les bactéries sont capables d'intégrer à leur génome les construits génétiques et de le transférer à toute la microflore du sol. Donc, c'est un problème qui est important. Et l'ADN est très stable et peut rester pendant longtemps dans le sol, d'une part. Et ensuite, il y a certains résultats d'expérience qui montrent que les organismes humains et animaux sont pas capables de complètement désintégrer l'ADN étranger et que cet ADN-là peut se retrouver incorporé au génome de l'organisme, même dans les cellules du fœtus et dans le cas de l'expérience, c'était dans les cellules du souriceau qui était né conséquemment. Et en fait, ça démontre que n'importe quel type d'exposition à de l'ADN transgénique, que ce soit à travers l'environnement ou à travers l'alimentation, comporte des risques de transfert interespèce. Alors, c'est sûr qu'on est confronté à plusieurs problèmes, mais il y a des chances et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et celle qui est très concrète, c'est que notre alimentation soit contaminée par les molécules pharmaceutiques qui ne sont pas destinées d'aucune manière, en fait, à la consommation humaine ou animale. Les pharmacultures comportent des risques d'exposition et d'absorption de composés pharmaceutiques qui sont expérimentaux, qui ne sont pas testés, de façon indiscriminée et évidemment sans consentement et sans nécessité médicale non plus. Donc, en conséquence, on pourrait assister à ne serait-ce que des vagues de cas d'allergie ou d'empoisonnement. À ça, il faut évidemment ajouter, la mutation des OGM, le débalancement d'écosystèmes, le transfert interespèce que j'ai mentionné précédemment, d'affecter la biodiversité, de la menacer encore plus qu'elle ne l'est présentement.
Oui, parce qu'on s'imagine qu'il y a des molécules pharmaceutiques, comme par exemple, ou qu'on appelle ça des protéines, ou peu importe le nom qu'on leur donne, par exemple de l'insuline ou des anovulants ou des hormones. La faune aussi va être sensible. Exactement. À ces produits-là. Si nous, par exemple, on consomme du maïs ou peu importe le produit porté transporteur d'insuline. Notre système endocrinien là, va être endocrinien, notre système de régulation qui est réglé par l'insuline va être complètement débalancé. Oui. Puis je veux dire, ça peut entraîner la mort facilement là.
Tout à fait. L'insuline, alors il y a beaucoup de composés comme ça, donc qui vont entraîner des effets sur le système immunitaire, qui vont entraîner comme le GP120 dont je parlais tout à l'heure, cause de la mort des neurones notamment. Donc on va avoir des composés qui sont extrêmement toxiques dont les effets sur les humains peuvent être très très graves.
Dévastateur,
oui,
sans être
fait.
Alarmiste, c'est vraiment le terme. Donc là, on parle des problèmes, donc au niveau de la, on voit s'il y a de la pollution génétique qui est impliquée là-dedans. On a parlé un peu des impacts sur la santé à travers des tests qui avaient été faits sur des mammifères, des souris, en l'occurrence, je ne sais pas si c'était des souris génétiques, parce que ça pose moins de problèmes, des animaux génétiques, mais on aurait l'occasion d'en reparler. Il y a quelque chose qui est particulier dans le cas des OGM, c'est que c'est extrêmement complexe. On a l'impression, on va parler un petit peu plus tard au retour de législation, de comment est-ce qu'on prend en charge, mais j'aimerais juste revenir sur peut-être ta première analyse de la transformation, parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'imaginaire, là. Quand on est rendu, qu'on fait pousser des produits pharmaceutiques dans les champs, là, il y a des choses qui sont brisées dans nos têtes, ou en tout cas dans les têtes des dirigeants ou des gens qui sont à la tête de ces compagnies-là, pharmaceutiques ou autres. Parce qu'il y a vraiment, je lisais des notes que j'avais prises lors d'une de tes conférences, puis tu parlais de l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique. Est-ce que c'est possible d'en parler simplement rapidement? En quoi tu considères que c'est révélateur de l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique?
En fait, je pense que ce dont à quoi tu réfères, c'était plutôt lorsque je disais qu'on réalise, parce que en biologie moléculaire, on a développé le génie génétique à partir de certains concepts fondamentaux qui notamment coupent le vivant de son environnement. Et lorsque je parlais de l'émergence d'un nouveau courant, c'était justement de dire que lentement, certains biologistes moléculaires mettre de l'avant, en fait, l'interaction entre les gènes et l'environnement et comment l'environnement influence les gènes, d'une part, et d'autre part, également, que les gènes fonctionnent en réseau. Mais c'est un courant qui reste marginal pour l'instant et ne fait pas le poids face à ce qui est fait en ce moment, parce que ce qui est fait en ce moment, c'est réellement sur cette idée-là de très, très mécanique, de remplacer un morceau, on place un gène, ça va produire tel de cause à effet, en fait, on met un gène, ça va produire telle protéine, alors que c'est pas si simple que ça et que ça peut débalancer les organismes et ça peut donc c'est pas cloisonné, en fait il y a beaucoup beaucoup de liens et bon, il y a certains courants biologiques qui commencent à mettre de l'avant ces liens là et d'expliquer la complexité, et la complexité est justement peut-être quelque chose qui va nous faire dire mais c'est tellement complexe que justement il faut prendre des mesures de précaution parce qu'on ne comprend pas et peut-être qu'on ne comprendra jamais.
Mais on ne s'est toujours pas doté ici. Là. On n'a toujours pas reconnu le principe de précaution non. comme étant un outil légal intéressant.
Pas du tout. Et on prend aucun moyen. Là, on parle d'approche de précaution dans laquelle l'économie arrive en premier lieu. Donc, on est loin, loin, loin du principe de précaution tel qu'il est mis de l'avant en Europe.
On s'arrête tout de suite et on revient là-dessus, justement, le fait qu'ici, on n'applique pas du tout le principe de précaution et qu'en fait, la législation est à la limite inexistante. Et en fait, c'est un domaine qui est en friche, vraiment, et à nos dépens, j'imagine, au retour. De retour à Delirium environnemental, je vous rappelle qu'on parle toujours d'OGM à visée pharmaceutique, de biofarming ou de pharmaculture, appelez ça comme vous voulez. Et on s'entretient donc toujours avec Marie-Hélène Bacon, qui est doctorante en sociologie et qui travaille sur le biofarming et la réglementation en la matière. Peut-être simplement, avant de parler justement de la réglementation à proprement parler, peut-être juste restituer les gens en termes d'échelle. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de savants fous dans des laboratoires qui font ça? Est-ce que ça s'est fait au Canada, au Québec? Est-ce que ça se fait en Europe? C'est quoi l'ampleur du phénomène?
D'accord. L'ampleur du phénomène, premièrement, on a de la difficulté à l'évaluer parce que ce sont des secrets commerciaux, ce qui veut dire que l'accès aux données est confidentiel. Donc, on n'a aucune idée du nombre d'essais en champ. On peut avoir une certaine idée parce que, bon, en ayant recours à la loi sur l'information, on peut avoir certaines données, mais encore beaucoup sont censurées. Donc, à savoir à évaluer, faire un portrait de l'ampleur, non. Mais, par exemple, aux États-Unis, selon la banque de données, il y a à peu près 1000 essais en champ en cours en ce moment, peut-être un peu plus. Mais ça, c'est ce qui est déclaré, parce que ce ne sont pas tous les essais en champ qui sont déclarés auprès des autorités, loin de là. Ce qui fait qu'on n'a pas idée de ce qui se passe réellement. Oui, il y en a au Québec. Notamment la compagnie Medicago au Québec qui fait de la luzerne à des visées pharmaceutiques. Donc oui, puis on en a dans l'Ouest canadien, comme je disais. Alors oui, on en a. Oui, c'est peut-être à côté de chez nous. On ne le sait pas, tout simplement. Et il y en a également en Europe. Mais en Europe, c'est beaucoup plus vraiment réglementé que ça peut l'être au Canada. Parce que, bon, notamment, le Canada encourage le développement des biotechnologies depuis à peu près 20 ans. Et depuis 1998, ils ont mis l'accent sur les pharmacultures, notamment. Ce qui fait qu'ils encouragent le développement de ce type de produits-là par plusieurs moyens, mais notamment en déréglementant ou en ne réglementant pas certains secteurs. Ce qui fait qu'en général, tous les produits issus du génie génétique sont considérés comme des produits classiques et vont être évalués selon les critères qui sont déjà en vigueur en matière d'environnement et de santé. Ce qui veut dire qu'une molécule transgénique va être évaluée de la même manière que, supposons, l'aspirine. Il n'y a pas de différence. On regarde le produit, on ne regarde pas la méthode d'élaboration du produit.
Donc, le fait que l'aspirine ne se reproduit pas dans les petits pots pour aller contaminer d'autres
contenants. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on parle de deux choses complètement différentes, mais une des stratégies du gouvernement, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a absolument aucune différence, ce qui est totalement faux.
En fait, ils utilisent, des produits à caractère nouveau?
Oui, les plantes transgéniques, c'est des végétaux à caractère nouveau, des VCN. Ce qui signifie que cette catégorie inclut tous les végétaux qui vont intégrer un caractère nouveau, mais de n'importe quelle façon. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser l'hybridation, puis ça va être un végétaux à caractère nouveau. Ce qui est une façon, en fin de compte, de brouiller les cartes. On ne peut pas dire, bon, qu'est-ce qui tient réellement de la moléculture, qu'est-ce qui tient de... Alors, c'est une façon un peu de brouiller les cartes.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, on s'entend, il y a donc pas d'évaluation scientifique faite précisément en regard des particularités du produit ou
exactement.
Des produits biopharmaceutiques en moléculture. De quel genre de moyens ou d'outils on devrait se doter pour protéger la santé publique et l'environnement?
Bien, je pense qu'on a besoin premièrement d'un débat public au Québec et au Canada, ce qu'on n'a pas eu, contrairement en Europe, ou si les OGM n'ont pas passé en Europe, c'est notamment à cause de la population et aussi du rôle des médias qui ont vraiment supporté le débat. Mm-hmm. Donc ça, c'est un élément important. Mais je crois qu'il faut également qu'on ait plus d'analyse, que les gens mettent de l'avant, les gens qui travaillent dans ces domaines-là aussi, mettre de l'avant des solutions et qu'on dénonce à quel point on a un problème de démocratie en ce moment et comment les agences réglementaires sont en ce moment, je dirais, en porte-à-faux entre la protection de l'environnement et de la santé et la promotion de certains produits et le développement économique, ce qui, évidemment, est un conflit d'intérêts majeur et on peut pas, en tant que société, avoir des agences de réglementation qui, en même temps, supportent le développement économique.
Non, c'est clair que ça fonctionne pas. Tu peux pas arrêter quelque chose qui te remplit les poches. Ça marche pas. Mais bon, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est ma nouvelle expression. Ça fait deux fois que je le dis. Donc, il y a loin de la coupe aux lèvres. Avant qu'on se donne de moyens comme ça, je veux dire, c'est pas fait. Puis le débat public, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu disais, oui, mais c'est vraiment un affront à la démocratie ou est-ce que la science est affaire de démocratie? Il y a une espèce de stigmatisation de ce débat-là, comme si on pouvait être pour ou contre, comme si c'était les deux seules positions possibles. Mm. Je veux dire, faire rentrer en débat une question aussi complexe que celle des organismes génétiquement modifiés, c'est pas évident. J'imagine qu'il y a une partie de la population d'abord qui ne se sent pas concernée et qui ne se sent pas interpellée non plus parce que c'est complexe. Là.
Oui, c'est complexe, mais je pense qu'il y a du gros bon sens aussi à mettre de l'avant. Et de se dire que notre alimentation peut être contaminée par des produits pharmaceutiques, tout le monde comprend que ça n'a aucun sens. Et je pense que ça prend justement des gens qui nous montrent les nuances, qui nous montrent les liens, qui nous montrent comment ça fonctionne, les rouages en fait, et des analyses qui sont en nuances. Et je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là, qui ont cette capacité-là, mais c'est pas nécessairement ceux qu'on va aller interroger non plus. Et ça fait partie du problème également.
Mmh. Ben merci parce que tu y as apporté une partie de la solution en venant nous en parler ici à Delirium Environnemental. Je te remercie beaucoup. C'est malheureusement déjà tout le temps qu'on avait pour parler de ce sujet passionnant qui, en fait, aurait pu être une série et s'étaler sur 2 ans. Mais bon, malheureusement, non, le temps chef ne sera pas possible. Marie-Hélène, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu comptes publier bientôt qu'on puisse te lire?
Oui, je vais me...
Pas que je te mette de la pression,
non,
là,
pas
mais...
Du tout, mais... Oui, c'est dans mes plans, là. Je devrais rédiger quelques articles bientôt.
Il faudra nous tenir au courant parce que, vraiment, moi, j'ai bien hâte de lire tout ça. Sinon, j'invite peut-être les gens à aller voir sur delaplanète.org un article absolument intéressant qui s'appelle « L'hiver silencieux, les cultures biopharmaceutique transforme la vie sauvage. C'était dans le numéro de mai-juin 2004. Ça sera sur notre site internet au www.radioderium.net. Merci. C'est déjà la fin de Delirium Environnemental et oui, le temps passe tellement vite. Moi, vraiment, le sujet duquel on vient de parler, la transgenèse pharmaceutique, je trouve ça capoté mental. Je comprends pas que les gens... Je comprends pas. C'est capoté mental.
Mais c'est comme les OGM, à fond, là.
Ça fait partie de la famille. Dans l'état de la planète, là, c'était du riz transgénique avec des gènes humains dedans pour créer des protéines qui sont présentes dans le lait maternel. Je sais pas si vous savez, là, mais on parle d'un gros problème de société, d'environnement. Mais bon, je m'excuse, c'est déjà la fin de Delirium Environnemental, disais-je donc. Et nous sommes donc rendus au coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Messieurs, faites-vous plaisir.
Coup de cœur, eh bien, pour tous ceux qui se prennent la tête et qui se disent « Qu'est-ce qui arrive avec ce genre de choses qu'on appelle les OGM? » Je vous rappelle encore une fois, vous irez voir www.radiodelirium.net ou le site de Greenpeace qui vous met un lien direct pour M. Charest et lui signifier l'intention populaire du Québec de, au minimum, étiqueter les OGM au Québec et qu'on puisse, parce que si on les étiquette, on n'en mangera pas et il n'en poussera plus. Bon.
Non, c'est pas si simple. Malheureusement, si c'était juste ça, ça serait déjà réglé depuis longtemps.
Eh bien, moi, de retour de Québec, je vous parle de l'auberge L'Autre Jardin, première auberge équitable au Québec. Et ce qui est intéressant, c'est que cette auberge-là vise complètement à favoriser le commerce local, favoriser les équitables. C'est en plein cœur du Vieux-Québec, tout près du boulevard Charest.
T'es-tu fait inviter à une nuitée gratis pour en parler?
Ben,
Ben oui, arrêtez tout de suite. Suite.
Mais bref, allez voir ça, c'est Auberge au Jardin, vous allez voir sur notre site, on va mettre un lien, sinon Google, ça marche très bien.
Wow, bien moi je vous invite à aller voir d'abord comme ça le commerce qui s'appelle 10 000 villages à Montréal, où il y a plein de produits, entre autres équitables, et tout ça parce que Pâques arrive, et vous savez, bien le chocolat qu'on mange comme ça sans réfléchir d'où il vient, et bien juste pour vous donner quelques chiffres de mémoire comme
ça,
il y a près de 300 000 enfants dans le monde qui sont, ma foi, martyrisés sous forme d'esclavage ou presque pour la culture du chocolat. Donc avant d'acheter du chocolat à Pâques qui s'en vient, eh bien pensez-y ou achetez donc du chocolat équitable pour avoir des conditions de travail respectueuses pour des enfants africains. Voilà, entre autres.
Hé, hey, c'est beau! Étienne, côté palais, qu'à la régie, tu dois avoir un petit coup de cœur, coup de masse pour nous.
Oui, j'en profite en fait pour faire un gros coup de masse au discours qui veut que les grévistes ne mettent pas autant d'efforts dans leurs études que sur les piquets de grève. Donc en fait, je veux juste rappeler aux gens que il y a certaines personnes dans la vie qui pensent plus grand que soi et qui réfléchissent aux problèmes des autres. Donc il y a des gens qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour penser aux autres et pour que la société aille mieux. C'est tout. Voilà.
Ben bravo, moi j'y vais pour un coup de cœur aux représentants étudiants, entre autres M. Bouchard de la FEUC, qui fait un travail admirable, franchement bravo, moi je suis contente de vous savoir là pour parler aux médias puis prendre la parole en notre nom, vraiment je trouve ça le fun, gros coup de cœur. Un coup de cœur aussi à l'Institut Jane Goodell, je sais ça doit faire au moins deux fois que j'en parle, mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils travaillent, c'est cette femme qui a travaillé en Afrique puis qui a découvert des choses phénoménales sur le comportement des chimpanzés, elle sera au mois d'avril à Montréal et pour la trouver, vous pouvez venir sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Parce que son site est sur notre site.
Eh bien, moi, j'y vais peut-être pas d'un coup de masse, parce que ça ferait peut-être mal un peu, mais disons d'un coup de pied au derrière à Stéphane Tremblay, critique en matière d'environnement dans l'opposition à Québec, qui ne fait absolument rien. Et désolé, mais vous avez une belle carrière politique devant vous. Il faut profiter des occasions où est-ce qu'on n'a pas besoin de décider pour se faire un capital politique, mais surtout pour se manifester sur des dossiers qui sont importants. Bougez-vous un peu!
Bien dit. Allez voir le site, sur notre site, le programme des Nations Unies qui dévoile encore une fois les photos gagnantes de son concours international de photographie. C'est sur le web et également un autre lien pour M. Suzuki et compagnie qui ont un autre bel album de photos.
Hey, c'est malheureusement la fin ou heureusement pour nous la fin de Delirium Environnemental. Ça nous a fait plaisir d'être là avec vous cette semaine pour vous parler d'environnement. En studio avec moi, bien entendu, Nicolas Milo pour la revue de presse. Merci beaucoup. Patrick Bonin, merci beaucoup d'avoir lu les journaux de la planète pour nous. Vous trouverez toutes les informations desquelles ces messieurs vous ont parlé au www.radiodelirium.net ainsi que l'article duquel moi je vous ai parlé qui est l'hiver silencieux concernant les biopharmaceutiques publié dans l'État de la planète en 2004. Ça vaut la peine de faire un petit détour. Delirium Environnemental, c'est également un site internet réalisé par Étienne Côté-Paluc que vous trouvez au www.radiodelirium.net. On sera là la semaine prochaine pour vous parler d'environnement.
Et la Journée mondiale de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va boire!
Bonne idée!